France Culture.
À voix nue avec
Alain Minc, Multicarte.
Bonjour Alain Minc.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau parisien situé non loin de la place de l'Étoile. Vous êtes né en 1949, est-il écrit, dans une famille juive polonaise. Parlez-nous de cette famille.
Je pense qu'il était plus précis de dire une famille juive communiste d'origine polonaise. C'est un itinéraire de toute une génération. Mes parents sont nés en 1908. Ils se sont émancipés d'un judaïsme quand même contraignant et fort, qui était celui de ces shtetl, comme on dit, de l'Est, par le communisme.
Shtetl,
c'est les villages ou les villes à majorité juive. Et ils sont arrivés en France, en réalité, en 1931. Et au fond, le communisme a été le moyen pour eux, à certains égards, de se libérer du judaïsme. Et avec une rupture avec la religion juive extrêmement forte. Mon père n'est pas entré dans un édifice religieux de quelque religion que ce soit de l'âge de 21 ou 22 ans jusqu'à sa mort à 103 ans. Donc ça fait vraiment 80 ans d'attitude combiste. Et quand ils sont arrivés en France, mon père a été régularisé. Il était donc immigré régulier. Et il s'est installé à Bordeaux, accueilli par l'univers communiste. Le communisme, c'est une famille, ou c'était à certains égards une famille. Et il a entamé des études de chirurgie dentaire parce que, au fond, il pouvait apprendre par cœur sans vraiment comprendre la langue. Il a appris la langue. Ma mère l'a rejoint après avoir eu un séjour en prison en Pologne comme militante communiste. Et elle était clandestine. Et j'ai dans mon bureau une lettre adressée par le maire de Bordeaux, radical, franc-mac, ouvert aux autres, accueillant les immigrés, Adrien Marquet, à Camille Chautant, président du Conseil, pour demander la régularisation de ma mère. Tout ceci n'aurait aucun intérêt, sauf que 7 ans après, le même Adrien Marquet est le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Vichy qui contresigne en dessous de la signature de Pétain le statut des Juifs. 7 ans, on demande la régularisation d'une clandestine et on signe le statut des Juifs. Sur la nature humaine et l'âme politique, s'en dit long. Et ma mère n'a en fait été régularisée paradoxalement que pendant l'occupation, avant qu'ils entrent dans la clandestinité. Et après, ils sont entrés dans la clandestinité. Ils ont passé la guerre, en réalité, dans l'univers de la MOI.
Qu'est-ce que c'est, la MOI ?
La MOI, c'est la main-d'œuvre ouvrière immigrée, qui était la section de la résistance communiste qui réunissait les immigrés et dont beaucoup, beaucoup de juifs. Et d'ailleurs, ça a valu une anecdote assez étonnante. Avant de mourir, mon père m'avait dit qu'il voulait, sur les faire-part de décès, juste qu'on mette « ancien résistant MEI ». Alors, au Monde, il n'y a aucun problème, il note « ancien résistant MEI ». Et ma secrétaire appelle le Figaro pour faire l'annonce. Et là, on lui dit à MEI, on n'a pas ça dans les registres. Alors évidemment, entre le Jockey Club, l'Interallié et l'Association de la Noblesse Française, il n'y avait pas la MEI. Donc j'appelle Moujotte, qui était le directeur du Figaro, et j'entends me dire « quels cons sont-ils ?» Et il a eu sa notice « ancien résistant MEI ». Mais ça, c'est quelque chose qui a été très important pour eux, d'abord. C'est aussi le réseau de solidarité qui les a sauvés. Mon père était à Paris dans la résistance. Ma mère a été, avec ma sœur aînée, chez des paysans communistes avec lesquels on a gardé des liens historiques, permanents. Et que moi, dans la mesure où j'avais pas de grands-parents, puisque mes grands-parents avaient disparu dans l'Holocauste, j'allais en vacances après la guerre chez eux.
Dans quelle région ?
Le Cher, à côté de Sancerre. Et je les appelais pépère et mémère, comme des substituts aux grands-parents absents. Voilà. Et ils ont été naturalisés, en réalité, comme résistant en 47, nonobstant la pression de l'ordre des chirurgiens dentistes qui, même après la guerre, voulait empêcher les étrangers de venir perturber d'une certaine manière le numerus clausus qui assurait la rentabilité du métier. Et puis ensuite, ils ont eu une vie très intégrée, communiste, jusqu'à un divorce qui a été un peu lent chez eux. Au fond, ils ont mis à divorcer du PC 15 ans, ce qui est quand même beaucoup.
J'ai cru comprendre que votre père était une personne importante dans la communauté juive. Il a eu un rôle très actif après-guerre pour organiser, sauver un certain nombre...
Non, il était... Enfin, je sais pas s'il faut dire la communauté juive, parce que tout ça était quand même dans la partie communiste de l'univers juif. J'emploie rarement le mot communauté, c'est un mot communitariste. Je préfère le mot univers. Et il a fondé, avec d'autres, une organisation qui s'est occupée des enfants orphelins de la Shoah, en créant des maisons d'enfants. Ça s'appelait la Commission centrale de l'enfance. Mais il l'a fait parallèlement à son métier. Mais il a été à un moment devant un choix de sa vie important, puisque on lui a demandé de retourner bâtir le socialisme en Pologne, comme on a demandé à plusieurs de ces communistes. Et il y a une personne, dont je vous dirai le nom, ça sont les clins d'yeux de l'histoire, qui lui avait dit « N'y allez pas, Joseph, c'est pas pour vous ». Et cette personne, c'est Caridad Mercader, c'est-à-dire la mère de Ramon Mercader, l'assassin de Trotsky, et elle-même vraiment une membre des services secrets du KGB, en fait. Donc c'est une amie, membre du KGB, qui lui a sauvé la mise en lui disant de ne pas aller bâtir le socialisme, c'est-à-dire entrer dans l'univers, dans le monde effrayant des démocraties populaires de 47, c'est-à-dire au moment du procès Slansky. Rien dit d'ailleurs que s'il y était retourné, il n'aurait pas été victime d'un des procès antisémites.
Une sœur aînée, avez-vous dit ?
Oui. Elle est née en 38. Il y a la guerre entre nous, oui. Donc elle a été plus marquée par toute cette période, évidemment. Elle a été cachée chez des paysans, d'abord chez des paysans qui l'ont assez maltraitée, puis ensuite chez ceux qu'elle appelait comme moi pépère et mémère qui l'ont bien traitée. Mais pour elle, la guerre, c'est quelque chose qui a une autre identité. Moi, je suis un enfant des années heureuses.
Quelle éducation avez-vous reçue, Alain Minck ?
Laïque. Hyper laïque. Le judaïsme chez nous n'existait absolument pas. D'abord, c'était un peu naturel dans la mesure où à Brest-Litovsk, sa ville natale, mon père mangeait du jambon le jour de Yom Kippour et il était poursuivi par quelqu'un de sa génération avec un bâton pour l'en punir qui était Menahem Begin, qui était lui aussi de Brest-Litovsk. Donc, c'était une éducation laïque. En revanche, le communisme était un bruit de fond. C'est-à-dire, j'ai tellement entendu mes parents discuter de tous les événements dans mon enfance qui ont scandé le communisme, des débats au moment de la rupture soviéto-chinoise, des troubles d'âme qu'ils avaient. Donc, d'une certaine manière, cette musique communiste était beaucoup plus présente que la musique juive, si je puis dire. Encore qu'une des raisons de leur divorce avec le communisme a été le traitement des juifs en Union soviétique, et en particulier les atteintes à la culture juive. Parce que ils retrouvaient leur identité, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire par la religion, ils la retrouvaient à travers un attachement à la culture yiddish.
Une enfance heureuse.
Une enfance heureuse, des parents unis, une vie dans un monde où on lisait beaucoup.
Que lisait-on ?
Ce qu'il fallait lire, c'est-à-dire tous les classiques, pas du tout une littérature orientée. Et parmi les livres qui n'étaient pas lus chez moi, il y avait évidemment la Bible. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais lu la Bible. Un peu tard. Bon, j'ai lu tardivement et j'ai trouvé grosso modo que c'est pas mieux que Les Misérables.
Je vous demande pas si vous avez fait votre communion, votre bar mitzvah.
Ah non, inconcevable. Je suis pas circoncis et quand mes parents sont allés avec nous, ma sœur et moi, en Israël en 1959 ou 1960, c'était pas l'Israël à certains égards avec le train de vie de Singapour. C'était un bord de mer avec des vestiaires collectifs. Mon père me disait « Reste bien face au mur pour qu'on voit pas que tu n'es pas circoncis, sinon on va se faire engueuler ».
Vos parents n'étaient pas traumatisés par la guerre? Vos parents n'avaient pas de passif à cet égard?
Pour moi, c'est un grand mystère que je n'ai jamais vraiment décelé. Comment on apprend, on comprend et on vit la disparition dans l'Holocauste de toute sa famille? Parce que c'était quand même ça. C'est-à-dire, leurs parents ont été engloutis dans l'Holocauste, à part une sœur de ma mère qui était partie en Palestine, deux sœurs de mon père aussi, tous les autres frères, cousins et autres ont été engloutis. Et j'ai essayé de comprendre quand est-ce qu'ils avaient compris. Et c'était très difficile à se le faire expliquer. Ils savaient qu'ils ne reviendraient pas, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Je ne sais pas comment on surmonte un choc pareil. Pour moi, de la vie de mes parents, c'est le seul trou noir sur lequel il était très difficile, à mon avis, et pas très convenable d'essayer de les faire parler. Ils parlaient de leurs parents. Ils avaient gardé des correspondances. En fait, ils ont gardé des correspondances de leurs parents jusqu'en 1940. Pourquoi 1940? Parce que la partie de la Pologne dont ils étaient issus a été occupée au moment du pacte germano-soviétique par les soviétiques. Donc, jusqu'en juin 41, il était possible d'écrire depuis cette partie occupée par les soviétiques dans la France occupée par les Allemands. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont gardé pendant la guerre ces correspondances, en les enfouissant je ne sais où, qu'on a fait traduire après-guerre avec ma sœur, qui était évidemment en yiddish. Et il fallait lire comme un palimpseste ce qui aurait été écrit en dessous pour comprendre que le système se durcissait, pour comprendre qu'il sentait la pression monter. Mais au fond, c'était pas une chronique historique de premier niveau.
Vos parents vous obligeaient à travailler, Alain Minck?
Ils n'avaient pas besoin. Non, c'était dans l'ordre des choses. Puis j'étais fait pour... Oui, je n'avais même pas besoin de travailler beaucoup. J'étais assez bon, quoi.
Mais vous faisiez autre chose que travailler. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous ne travailliez pas?
Je faisais comme faisaient ces gamins. Je faisais pas assez de sport, parce que c'était pas la culture familiale. Je me suis mis au sport beaucoup plus tard.
Pourtant, vous parlez d'Anquetil.
Oui, non, mais je regardais le sport. J'avais une passion pour Jacques Anquetil. Je lisais l'équipe tous les matins.
Comment ça se fait?
Parce que
votre père lisait pas l'équipe, rassurez-moi.
Le mécanicien dentiste qui travaillait avec mon père lisait l'équipe. Et quand on voulait me punir, on me privait de l'équipe. Voilà. Mais je lisais. Une vie banale sans aucun intérêt et très agréable.
Mais alors, d'où vient donc, puisque votre parcours académique, c'est connu et exemplaire, Polytechnique, l'ENA...
Non, j'ai pas fait Polytechnique, j'ai fait les mines, Sciences Po et l'ENA. D'où vient le système français à son meilleur? C'est-à-dire, vous êtes un très bon élève, j'étais au lycée Turgot, je suis allé après à Louis-le-Grand parce que ça m'était plus adapté, j'ai pas choisi... En réalité, la suite, parce qu'on l'a choisi pour moi, on m'a envoyé en classe de préparation scientifique, où j'étais honorable, mais j'apprenais les problèmes de maths par cœur, et je commençais à comprendre que ma vocation était ailleurs. Je suis pas entré à l'X, parce que, à l'épreuve de physique, mon piston n'a pas démarré du sol. Je suis entré aux mines, et j'ai tout de suite compris que ma voie était autre. Je suis entré à ce moment-là, en même temps qu'aux mines, à Sciences Po. Puis là, j'étais sur ma trajectoire, j'étais premier de Sciences Po, j'étais premier de l'ENA. Dans ce système-là, j'étais premier tout le temps.
Pourquoi?
Parce que ça devait marcher avec ma forme d'esprit, quoi. Là, j'étais un bon élément. Et c'est là que j'ai eu ma première phrase, involontairement antisémite. J'étais sorti premier de Sciences Po, et le directeur légendaire du Sciences Po de l'époque, Monsieur Chapsal, me convoque. J'étais un peu intimidé. Pour me dire, je voulais vous dire, je suis très content que pour la première fois, un Israélite, soit major de cette école.
Mais alors, justement, parce que, vous êtes né dans le 19e arrondissement de Paris, vous n'avez pas été élevé dans le 19e arrondissement de Paris, vos parents avaient un accent?
Oui. Et le regret que mon père a toujours eu, c'était de ne pas avoir pris des cours pour corriger son accent, ce qui prouvait la violence du désir d'assimilation, mais qui n'était pas un désir de reniement. Ils n'ont jamais changé de nom. Ils auraient pu garder, par exemple, leur nom de résistance, qu'on voit d'ailleurs en dégradé à travers les papiers, puisqu'on voit Minc effacé, on voit un nom d'Acmin marqué, effacé à nouveau. Donc, ils n'ont pas cherché à se cacher de ce point de vue. Mais c'était marrant, le fait qu'ils regrettaient d'avoir un accent.
L'arrivée à Sciences Po, est-ce une arrivée difficile parce que vous vous sentez différent des autres, parce que vous n'êtes pas intégré ?
Non, mais j'étais intégré. J'étais intégré au lycée où il y avait beaucoup de gosses de juifs immigrés, qui était le lycée Turgot. J'étais au lycée Louis-le-Grand, qui était la matrice de l'excellence. J'étais totalement chez moi. Donc, c'était pas du tout ça, ça n'existe pas. Donc, c'est la France de cette époque. Quand vous étiez bon, vous étiez totalement intégré. Même pas intégré, assimilé.
Justement, ce directeur de Sciences Po...
Oui, mais c'est la première fois de ma vie, donc j'avais fait mes classes de prépa 3 ans après. C'était en 71 que j'entends ce propos, qui était d'ailleurs plein de bienveillance. Mais je ne m'avais jamais ressenti des choses comme ça. Après, je suis entré tout de suite à l'ENA, je suis entré premier. J'ai battu tous les records de points. Bon. Et je comprends après pourquoi le directeur de l'ENA de l'époque, grand résistant, ancien directeur de cabinet de Michel Debré, qui s'appelait Racine... m'envoie en stage de préfecture dans la Sarthe. Pourquoi la Sarthe ? Parce qu'il avait décidé de m'envoyer chez un préfet, pas juif, mais qui avait été déporté à Buchenwald pour fait de résistance. Donc ça voulait dire clairement qu'il voulait protéger la petite fleur que j'étais en la mettant sous cloche. Mais ça, je l'ai compris après. Ça veut dire que lui se disait « on ne sait jamais ». Mais moi, j'ai pris ça naïvement, on m'a envoyé au Mans. Je n'ai compris tout ça qu'après, que c'était destiné à cause de ce qu'on pouvait penser, de zeste éventuel d'antisémitisme, qu'on voulait m'en protéger.
Des amis ?
Des amis ?
Oui.
Bien sûr. Bah, évidemment, qui n'a pas d'amis ? Ou alors ceux qui n'ont pas d'amis, c'est à pleurer, non ?
On dit souvent que les premiers de la classe n'ont pas d'amis.
Non, j'étais un brave mec. Non, j'étais un brave premier de la classe, j'avais plein d'amis, j'en ai gardé un petit peu.
Qui ça ? Qui ça, justement, ces amis que vous avez rencontrés à Turgot
Ah non, après, non, alors ça, c'est non, des amis de lycée.
Je prends la totalité de votre...
Oui, non, mais ça, j'ai des strates d'amis de toute époque, oui, bien sûr. J'ai des amis de 60 ans, de 50, de 40, de 30, etc.
Pour le dire autrement, on apprend dans les livres qu'à l'ENA, à Sciences Po, etc., on commence à se constituer un réseau. Est-ce que ça a été vrai dans votre cas ?
Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le réseau, il m'a été donné parce que je suis sorti de l'ENA, j'étais premier et je suis allé à l'inspection des finances. Et le réseau, c'est l'inspection des finances. Alors oui, c'est vrai, c'est un club anglais. Voilà. Bon, c'est un club anglais, il faut pas en faire une machine. Ça a l'avantage de tous les clubs anglais. Et je continue à fréquenter ce club anglais. Je reçois les jeunes inspecteurs des finances. J'essaye de les aider. Et je trouve que la suppression de l'inspection des finances, geste démagogique de Macron et geste de frustration d'Alexis Kohler qui ne s'est jamais remis de ne pas y être entré, est une absurdité.
Comment ? À l'époque, voyiez-vous votre avenir, Alain Minc ?
Normalement, mon avenir était écrit par le système. Je devais faire mes 4 ans de tournée de l'inspection, en théorie, entrer à la direction du Trésor et finir, gouverneur de la Banque de France. Et puis, il y a des péripéties dans la vie. À l'inspection des finances, je tape dans l'œil de quelqu'un qui a eu une importance après fondamentale pour moi, qui s'appelait Simon Nora, qui était la quintessence du haut fonctionnaire admirable, conseiller de Mendès, conseiller de Chaban, dont je fais dans mon dernier petit bouquin un portrait, je crois, plein de respect et d'affection. Et il m'a entraîné dans une aventure fondatrice. Il avait été chargé par Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait se débarrasser de lui parce que pour des tas de raisons, Giscard se méfiait de lui. Il avait été chargé de faire un rapport sur l'informatisation de la société française. Et il avait besoin d'un complice. Je dis bien un complice, j'ai pas dit un nègre. Et donc il m'a embauché pour ça. Et pendant 1 an, on a fait ce rapport. Et la preuve que j'étais pas un nègre mais un complice, c'est qu'il l'a co-signé avec moi. Et il m'a installé, en fait. Ce rapport s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Il était bon, le rapport, hein, objectivement. Mais c'était le fait que les gens cristallisaient leur angoisse sur l'informatisation, comme aujourd'hui ils la cristallisent sur l'intelligence artificielle.
Mais alors, on dit que c'est la première fois que le mot télématique a été employé.
Oui, c'est vrai.
Employé, et puis alors
ça, c'est moi qui l'ai inventé. Ça, c'est exact. En allant rejoindre notre bureau commun avec Nora, un jour, je me souviens, j'allais à pied, boulevard Saint-Germain, je me suis dit, mais au fond, il faut inventer un mot, ça marchera pas si on n'invente pas un mot. Et j'ai fait la contraction de télécommunication et d'informatique, ça fait télématique. Et on s'y est mal pris, parce que, en fait, le mot télématique aurait dû rester, c'est le mot Internet, hein, en fait. Ça aurait été quand même assez grisant comme petit legs.
Mais alors, justement, parce que télématique, donc on pense au Minitel, et on se dit, voilà, mais alors le Minitel, c'est à cause de ça qu'on a pris tant de retard. Mais est-ce que c'est à cause de vous deux que...
Non, le Minitel, sur le départ, est un coup d'avance formidable. C'est-à-dire, un très haut fonctionnaire, qui était le directeur général des télécommunications de l'époque, a compris l'intérêt qu'il avait à surfer sur ce rapport. Il a fait adopter par Valéry Giscard d'Estaing un plan télécom qui permettait de sortir du 22 à Asnières, qui était de 100 milliards de francs de l'époque, c'est-à-dire deux fois le plan nucléaire. Et un des éléments de ce plan a été le Minitel. Alors après, ce coup d'avance s'est transformé à un moment en coup de retard, à la française. C'est-à-dire, on a une invention, alors on la cultive bien dans notre petit jardin, on ne l'internationalise pas. Et en effet, ça a été l'occasion d'un retard qui n'a été levé que par Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, qui a donné un coup d'accélérateur qui nous a permis de rentrer dans le monde de l'Internet. Mais une fois dit tout ça, j'aurais bien aimé que l'Internet soit la télématique.
Ce rapport vous a permis donc d'être connu dans la ville, Alain Minc, et qu'est-ce qui vous a apporté d'autre? Il vous a fait dévier de votre trajectoire?
Il m'a fait dévier, mais la vie, ce sont des hommes. Comme j'étais devenu un peu visible, très visible dans mon univers, et un peu visible, hein, 500 000 exemplaires, c'est beaucoup quand même pour un bouquin. À l'époque, les gens lisaient. J'ai tapé dans l'œil de quelqu'un d'exceptionnel, qui était à l'époque le patron d'une boîte privée qui s'appelait Saint-Gobain, qui était Roger Fauroux, qui était un normalien, énarque, inspecteur des finances, très engagé religieusement, qui avait appris l'hébreu pour pouvoir faire sa thèse de doctorat sur la Bible, très proche de l'épiscopat, et qui m'avait tout de suite proposé, en un déjeuner, de devenir directeur financier de cette grosse boîte.
Pourquoi directeur financier ?
Parce que un type qui est inspecteur des finances, vous le mettez directeur financier, c'est l'endroit où vous vous dites qu'il sera le moins nul pour le déniaiser, et puis après, vous le faites progresser dans la vie. Voilà, la vie, c'est des hasards de rencontres.
Hein. Mais ça avait un sens pour vous d'être directeur financier? Vous étiez vraiment directeur financier?
Ah ben oui, j'ai fait mon boulot. Mais à l'époque, c'était très intéressant. C'était l'époque où il y avait des promotions dans les entreprises, il y en a beaucoup moins. Roger Fauroux avait eu l'intelligence de me mettre comme adjoint, un directeur financier adjoint, et qui, lui, n'avait aucun diplôme et était sorti du rang. C'était très malin, le petit prince et l'homme sorti du rang. Voilà. Non, mais il y a des types qui sont assez supérieurs. Fauroux l'était à certains égards.
Saint-Gobain, il y a des restructurations à faire.
Mais il y a tout le temps des restructurations à faire. C'est la vie économique. Hein.
Mais ces restructurations, elles se passent comment, Alain Minc?
Mais les restructurations, ce sont des nécessités vitales. Bien sûr que ça crée de la douleur. Bien sûr, bien sûr. Mais vous êtes obligé de les faire, sinon vous faites beaucoup plus de malheur. Moi, je n'étais perturbé qu'une seule fois. En dehors de mes fonctions de directeur financier, je présidais une boîte, une des filiales. Et à un moment donné, dans une usine en Alsace, les salariés se sont mis en grève de la faim. Ça m'a perturbé jusqu'au jour où l'évêque mitoyen a organisé auprès d'eux le dimanche le méchoui de la solidarité. L'évêque organisait un méchoui de la solidarité auprès d'ouvriers en grève de la faim. Donc je me suis dit, la grève de la faim est pas trop grave, ça doit pas être. Mais c'est le seul moment où j'étais perturbé. Vous essayez de le faire le moins mal possible, c'est tout. Dans les grandes boîtes, On y viendra peut-être en parlant de choses plus actuelles. Les grandes boîtes font ça correctement parce qu'elles consacrent beaucoup d'argent. Regardez, aujourd'hui, Michelin a annoncé qu'ils allaient fermer deux usines, 2500 salariés sont concernés. Ils vont mettre 350 millions d'euros pour régler le problème. Donc les 2500, en réalité, auront d'autres jobs, seront sauvegardés. En revanche, là où les licenciements sont durs, quand vous avez une crise comme la crise de l'automobile, ça touche ce qu'on appelle les équipementiers de rang 3, 4 ou 5. Car là, le système ne vous reclasse pas. Donc là, le système est cruel. Mais le capitalisme, c'est une machine efficace et cruelle, irremplaçable et sévère.
Mais alors, qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça, Joseph Mengs? Parce que on a un papa communiste et...
Oui, mais il était devenu socialiste. C'est-à-dire, le basculement, c'est 65. C'est quand mes parents... Je me souviens des conversations à la maison quand Valdez Crochet, secrétaire général du PC, avait décidé de ne pas présenter de candidat à la présidentielle et de soutenir François Mitterrand. Et donc, a-t-il raison, pas raison, etc. Et à partir du moment où mes parents ont voté Mitterrand, ils ont quitté le PC en 67 à cause d'une raison liée au judaïsme, qui était la campagne antisémite en Pologne, où il n'y avait plus de juifs, il y avait 3000, 4000 juifs, menés par le ministre de l'Intérieur de Gomulka, le général Moczar. Alors là, c'était quand même la goutte de trop. Et ils sont partis. Et puis, ils sont devenus des gens de gauche socialisants.
Et vous ?
Oh ben moi, j'ai voté Mitterrand tout le temps, d'ailleurs. J'ai voté Mitterrand en 74. J'ai voté Mitterrand en 81. Mon raisonnement à l'époque a toujours été « La France a besoin d'alternance. Il y a un prix économique à payer, mais c'est une nécessité démocratique vitale. » J'ai évidemment voté Mitterrand en 88. On a même signé un article dans Le Monde très drôle avec Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner et Marine Karmitz pour dire « On vote François Mitterrand pour qu'il nous débarrasse du socialisme. » Voilà. Mais je n'ai pas voté qu'à gauche. Puisque j'ai soutenu Édouard Balladur au premier tour de la campagne présidentielle, on y reviendra peut-être, et j'ai dit publiquement le soir de sa défaite que je votais Jospin au deuxième tour. Ce qui m'a valu ma minute de gloire, que dans le débat Chirac-Jospin, mon nom arrive, le seul nom propre pendant le débat, et Chirac, avec un air méprisant, dit à Jospin « Celui-là, je vous le laisse ». Voilà, et qu'est-ce que j'ai voté ? J'ai voté Macron, évidemment, en 2017, mais ce n'était pas mon candidat. Mon candidat était Alain Juppé. Et je pense que ça aurait été bien pour ce pays que Juppé soit président et Macron ministre de Juppé, parce qu'il aurait eu les 5 ans dont il avait besoin pour apprendre l'État. Et en 2022, et je sais que Macron a détesté, j'ai dit au premier tour que je voterais Pécresse. Et j'ai voté, évidemment, Macron au deuxième tour. Et pourquoi j'ai voté Pécresse ? Je l'ai expliqué dans un entretien au Point. J'ai dit, il n'aura pas de majorité, son encéphalogramme est devenu plat, la fonction est trop dure, on ne peut pas faire de mandat. Et les événements que nous vivons actuellement tendent non pas à dire que j'avais de la préscience, c'était l'évidence.
Merci beaucoup, Alain Mengs. À demain.
C'était À Voix Nue avec Alain Mengs. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Prise de son, Julien Girard. Chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral. Une série de Guillaume Erner, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.